connu de tous. Si je vous dis Denis Gravel, vous savez c'est qui?
Je sais pas c'est qui, non.
Véronique Bergeron?
Non.
Audrey Pinchot?
Non.
Ben voyons, vous êtes certain?
Non.
C'est écouté à l'international, ça.
Québec, pas pantoute.
Ben voyons, vous êtes certain?
Come on! Ah là, je vous reconnais!
Gravel dans le retour, ça gagne à être connu.
OK. Il est 15h05. Ça prend peut-être pas pour les Hurricanes, mais c'est la tornade Sarah Dufour qui a quitté le studio aussi rapidement qu'elle l'avait envahi avec son énergie, son talent, sa bonne humeur, son accent, tout ce qu'on aime. Je vous invite à aller la voir demain du côté de l'Agora, juste avant la présentation du match sur écran géant. Faut utiliser l'Agora, la plus belle salle de concert extérieure au Québec. On l'utilise pas assez. Saluer Carl Emmanuel et tous ceux qui l'ont fait revivre dans les dernières années. Puis jeter un œil à la programmation. Moi puis ma blonde, on a découvert qu'un de nos nouveaux groupes préférés vient cet été.
À l'Agora?
En première partie d'une première partie, effectivement.
Ben voyons.
Souvenez-vous quand je vous ai parlé de Midnight Generation?
Absolument.
Le groupe mexicain qui sonne un peu comme Daft Punk.
C'était bon, ça.
Ben, ils viennent le 26 août à l'Agora. Je me souviens plus du band qui est...
ça, c'est drôle.
En main event. C'est weird, là. Tu sais, trippé. On va probablement y aller pour aller voir le band en première partie de la première partie, ce qui est quand même spécial.
L'année passée, je suis allé pour voir les Wallflowers qui jouaient avant ZZ Top.
Ouais.
J'ai vu une tonne de ZZ Top.
Fait que c'est quoi le show à l'Agora le 26 août prochain pour le fun?
Je suis en train de le chercher.
Ok, c'est bon. Pour les gens qui s'en souviennent pas, Midnight Generation, que ma blonde a vu à Montréal dans une petite salle. Si vous aimez le genre de Daft Punk, tu l'as su? Je me suis peut-être trompé d'une journée, là. Le band qui est juste incroyable live. Allez voir des performances, il y en a plein. Midnight Generation sur YouTube.
Ton show est le 27 août.
Le 27 août?
C'est là que je suis rendu.
OK, on va se rendre. Mais checker le calendrier de l'Agora, ça vaut vraiment, mais alors là, vraiment la peine. Il fait beau? On prendrait quelques degrés supplémentaires, mais pour l'instant, on va se contenter du 16 degrés qu'on a, avec un maximum de 18 pour la journée d'aujourd'hui. Risque de gel au sol pour ce soir et cette nuit, avec un minimum de 3. Demain, soleil, 19, minimum de 6 pour les gens qui vont traîner en ville à l'extérieur. Dimanche, des nuages et un maximum de 18 degrés avant que la pluie ne s'installe pour les journées de lundi et mardi. Hey, Véro, on va se lancer dans les nouvelles. Je vais chercher ça pendant
absolument
ce temps-là. Là, tabarnouche.
Hey, d'habitude, je trouve ça en 3 secondes d'écart.
T'es sur le neutre à côté.
Non, c'est pas moi qui est sur le neutre. Je te jure que c'est pas moi qui est sur le neutre.
Ben là, c'est à toi que je l'ai demandé, puis c'est toi qui l'as pas. Ça arrive, Véro. Une fois d'une vie, ça se peut, là.
Moi, si tu veux qu'on passe un beau vendredi, Denis, je reculerai.
Ben, j'accuse pas de quoi que ce soit. Ça nous arrive toutes d'en manquer une.
C'est
voyons donc.
Je suis pas sur le site de l'Agora, fait que je peux okay pas
ben,
t'aider.
Ben, on va faire nos nouvelles. On tarde. Ça fait une heure qu'on est dû et qu'on est prêt. Fait que, Véro, on se lance vendredi 22 mai.
Le premier ministre canadien, Mark Carney, est sorti aujourd'hui pour répondre à ce qui s'est passé hier soir en Alberta quand la première ministre a dit « Hey, au mois d'octobre, on va faire un référendum sur la possibilité de tenir un référendum. C'est parce qu'il se passe quelque chose de particulier du côté de l'Alberta, c'est qu'à l'intérieur même de son parti à elle, il y a des gens qui voudraient tenir un référendum sur la séparation de l'Alberta du reste du Canada. Et de son côté à elle, elle dit qu'elle veut rester dans un Canada uni. Fait que dans le fond, ce qu'on va demander, c'est est-ce que le gouvernement provincial devrait engager la procédure juridique nécessaire pour organiser un référendum exécutoire? Fait que Mark Carney a répondu aujourd'hui en disant que le Canada fonctionne, il pourrait être meilleur, on travaille à l'améliorer et on travaille avec l'Alberta pour l'améliorer. Fait que ça fait encore beaucoup jaser aujourd'hui. Puis là, il y a même des dissidents à l'intérieur du parti de la première ministre qui disent « si elle n'appuie pas notre volonté, on pourrait la pousser à l'extérieur du parti. » Les sondages disent que les Albertains sont contre la séparation, mais malgré tout, il y a un mouvement populaire qui existe. Il n'y a pas de parti séparatiste du côté de l'Alberta. Fait que c'est une situation qui reste à observer.
Il y a quand même un move stratégique qui est assez simple à comprendre pour la première ministre de l'Alberta, c'est qu'elle est convaincue que le référendum ne passera pas. Fait qu'elle dit « on va le faire, ça va régler la question, puis on va passer à autre chose ».
C'est 67 % des Albertains qui, il y a un mois de ça, se disaient contre,
ouais.
Selon un sondage qui avait été fait.
Tu sais, tu passes pour une démocrate qui permet à tout le monde de s'exprimer, puis en même temps, un coup qu'un référendum est fait, c'est une boîte qui est fermée. Pourquoi, selon notre expérience, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, fait que ça peut régler le dossier. C'est Empire of the Sun,
ah, voilà.
Qui est le band qui fait une tournée nord-américaine, qui est le band qui devrait passer par l'Agora le 26 ou plutôt le 27 août prochain, que tu me disais?
Oui, 27, oui.
27 août prochain. Donc, c'est en première partie de la première partie que Midnight Generation va être là pour un quoi? Un 20, un 25 minutes, mais ça va être amplement suffisant pour se faire triper.
Ensuite de ça, il y a la première ministre Christine Fréchette qui aujourd'hui a désigné officiellement Gilles Villeneuve comme étant un personnage historique du Québec. Il n'est pas le premier. Il y en a une longue liste. C'est en vertu de la loi sur le patrimoine. C'est quand on reconnaît l'importance d'un personnage.
Il n'y a pas personne qui va s'ostiner. Hein?
Si on fait ça alors que le Grand Prix du Canada s'amorce. Il y a des essais libres qui ont commencé à avoir lieu. Gilles Villeneuve, qui aura d'ailleurs son film qui va sortir un peu plus tard cette année. Mais lui, ça a été sa victoire au Grand Prix de Montréal en 78, qui a été le premier Canadien à remporter ça. Il a été le seul. Son fils l'a pas remporté, le Grand Prix du Canada?
Je ne pense pas, mais là, tu ne demandes pas à la bonne personne.
Ça a été un des pilotes les plus flamboyants encore aujourd'hui. On l'associe directement à l'écurie Ferrari. Ce que j'ai trouvé particulier, la veuve de Gilles Villeneuve l'a appris par texto un matin.
Ah, ouais.
Qu'on allait le désigner.
Ça, c'est poche.
Personnage historique. Fait qu'elle n'était pas à l'annonce. Elle le savait pas. Puis, tu sais, pourtant, elle est associée directement à lui depuis toujours. Hein? Mm-hmm. Puis, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une drôle de stratégie de la part du gouvernement.
Gilles Villeneuve est le seul pilote canadien à avoir gagné l'épreuve montréalaise en 1978. Jacques Villeneuve n'a jamais même passé proche. Son meilleur résultat à Montréal, c'est 10e position en 1998.
Hey, on nous pose la question à savoir, parce qu'aujourd'hui, dans les essais libres, il y a un pilote qui a pogné une marmotte. Puis, à cause de ça, ça a été sa seule séance d'essais libres. Sa voiture est rentrée dans le mur. La marmotte ne semble pas avoir survécu, mais le pilote, lui, a l'air de bien aller.
OK. Oh.
La pauvre.
Mais
ça aurait pas été vraiment dangereux, ceci dit. Là.
Mais là, la marmotte a pogné le char.
Oui, elle est en avant du char.
C'est parce que de la façon que c'est fait, une F1, ça fait bizarre. Là. Mais tu peux avoir scrappé un char en roulant sur une marmotte.
Ah, oh, mais possiblement que le char est scrap parce que le char a pogné le mur.
La marmotte est scrap, ça, on le sait.
Oui, ça, assurément.
Hey, avant de poursuivre les nouvelles, Max m'a envoyé quelque chose d'incroyable qui circule sur les réseaux sociaux depuis une couple d'heures. C'est une équipe que je ne connais pas qui s'appelle les Hurricanes de Lethbridge. Et les Hurricanes de Lethbridge ont partagé une vidéo et faut entendre l'audio pour comprendre. Ça s'appelle une lettre des Hurricanes de Lethbridge aux partisans des Canadiens de Montréal. Et donnez-moi deux petites secondes. Je veux juste avoir le bon son. Le voilà. Chers fans des Canadiens de Montréal, nous comprenons la confusion. Après tout, on s'appelle les Hurricanes, nous aussi. Mais nous avons reçu dans les dernières heures beaucoup de messages passionnés et de commentaires pendant votre run de séries éliminatoires. Mais juste vous rappeler, nous sommes les Hurricanes de Lethbridge, pas les Hurricanes de la Caroline. Et maintenant que c'est dit, on vous souhaite de bonnes séries et on salue les partisans du Canadien de Montréal partout à travers la planète. Et là, on entend des messages qu'ils ont reçus.
Wouhou! Les Canadiens! Les Canadiens vont gagner! Vous êtes une gang de p***! Vous allez perdre! La Coupe Stanley s'en vient! Vous allez pouvoir vous inscrire au golf l'année prochaine! Wouhou! Voyez votre candidature, guys! C'est le temps! Vous allez perdre tout de suite! Meilleur que vous autres, mangez de la c***. Envoyez perdez!
C'est 4 à 1! C'est 4 à 1!
Hey, wouhou! Pauvre petite, t'avais une grosse soirée!
Gang de p***! Vous êtes pas bon! Vous êtes pire que Buffalo! Allez toutes les enjoindre! Wouhou! Tout dans le même cas! Get out!
Et là, on montre la carte pour montrer la distance entre Lethbridge et la Caroline.
Lethbridge est en Alberta.
Ouais, donc voilà.
Hey, c'est bon ce show-là.
J'ai trouvé...
C'est toute la même fille, hein?
Puis là, ça se termine, c'est marqué « Please leave us alone ». S'il vous plaît, laissez-nous tranquille avec les messages.
C'est hilarant. Mais c'est elle, toute la... C'est donc bien drôle.
Ouais. Elle en avait une grosse, là.
Ah oui, vraiment, elle vivait son moment, là.
Yes. Les autres nouvelles...
Il en reste une. Il y en c'est juste une. Que c'est un clin d'œil que je trouvais sympathique, là. C'est la Polytechnique de Montréal qui a décerné un doctorat honoris causa à Charles Tisser, l'animateur de Découverte. C'est pas le premier doctorat qu'il reçoit, mais chaque fois, je trouve ça charmant parce que, on parlait de souligner l'importance de certaines personnalités. Charles Tisser, ça fait 30 ans qu'il anime Découverte. Puis je pense que pour bien des gens, un des rares contacts qu'ils ont avec la science...
La nature.
C'est cette émission.
L'univers.
C'est une bonne émission de vulgarisation, mais lui fait que ça pourrait être aride. Il y a certains reportages qui sont pointus, mais dans ses amorces, on dirait que tu as toujours le goût, tu as une curiosité qui vient avec.
Le problème, c'est qu'en langue française ou en langue québécoise, dès qu'il y a un documentaire qui concerne l'environnement ou la science, puis que c'est pas Charles Tisser qui fait la voix du narrateur, on dirait que ça manque de crédibilité.
Te souviens-tu quand il avait fait une campagne de sensibilisation au cancer testiculaire?
Non.
Êtes-vous sérieux?
Pas mal.
Le monde merveilleux des couilles?
Hein? Ouais, ça me dit quelque chose.
On avait engagé Charles Tisser pour faire la narration de ce documentaire-là, ben, de cette publicité-là. Puis il parlait des couilles, puis tu voyais les petits animaux poilus qui ne sont pas des testicules, mais c'était tellement brillant, là.
Je l'ai, je pense, là. Je dois avoir ça ici.
Bienvenue dans le monde merveilleux des couilles. Énormes ou de taille modeste, touffues ou bien entretenues, les couilles peuvent être de style et de grosseur très variées. Pas d'inquiétude donc si les vôtres ne sont pas tout à fait identiques. Vos couilles sont fragiles et il est important de les examiner une fois par mois pour détecter le moindre problème. Devant un miroir, observez vos couilles pour voir s'ils semblent enflés. Placez vos doigts sous votre couille avec votre pouce sur le dessus et exercez une légère pression. Faites doucement rouler votre couille entre votre pouce et vos doigts. Cette opération ne devrait pas être douloureuse. Palpez ainsi toute la surface de votre couille et recommencez l'examen pour votre deuxième couille. Et voilà, des couilles en pleine santé.
cancertesticulaire.com, les couilles, C-U-Y-S.
C'est des cochons dingues.
Ouais. Fait que dans le vidéo, on voit les cochons dingues se faire masser comme si c'était des testicules.
C'est quand même intelligent.
C'est vraiment
brillant comme campagne. Tu vois, je m'en souviens encore des années plus tard.
Il est 15h17. On vous rappelle qu'aux environs de 16h cet après-midi, on va vous partager le dernier indice de la semaine pour peut-être gagner la paire de billets du boss pour être présent au match numéro 4 au Centre Bell entre le Canadien et les Hurricanes, collaboration Boulevard 102-1 et les Trois Chaloux de la région de Québec. L'indice, dès que vous l'avez, vous allez l'inscrire au blvd.fm section concours. Et quand je dis dernier indice de la semaine, je n'inclus pas la fin de semaine parce que tout le week-end, vous aurez également 3 opportunités par jour de participer, 3 demain et 3 dimanche. Bonne chance! Gravette. Aux environs de 17h, on va se brancher avec notre ami Richard Martineau pour le segment Québec-Montréal. On va jaser avec Gab Marineau pour le top de sport, revenir sur l'éclatante victoire du Canadien de Montréal hier face aux Hurricanes de la Caroline. Éclatante, mais ça soulève quand même quelques points d'interrogation pour la suite des choses. On va jaser de la Coupe Memorial qui débute ce soir et en fin de semaine. Puis on va faire le tour du sport à la manière de notre chum Gab. Il y a Judith Desmeules qui va venir nous raconter la fin d'une histoire sordide qui fait en sorte qu'un adolescent a été reconnu coupable d'une peine d'adulte amplement méritée pour un meurtre gratuit. Soyez là aux environs de 16h30, puis je vous rappelle qu'on a un indice à 16h pour peut-être partir au Centre Bell mercredi prochain pour le match numéro 4. Audrey a une nouvelle passion dans sa vie, c'est Star Wars. Peut-être que vous en avez entendu vaguement parler. Au départ, elle nous disait que c'était une bonne amie hein, qui l'avait initiée à Star Wars avant qu'on comprenne que finalement, elle avait un nouveau chum, tu sais? Puis son nouveau chum, ben, est en amour, fait qu'elle a décidé qu'elle tripait sur Star Wars.
L'initiée au sabre laser.
Ben, je pense que le bémol est surtout là. Je trippe sur mon chum. Peut-être pas autant sur Star Wars, mais mon chum trippe sur Star Wars. Fait que tu sais, là, maintenant...
T'as décidé de suivre.
T'essayes.
Lui, est-ce qu'il trippe sur les vampires maintenant?
C'est vraiment drôle que tu dises ça parce que la semaine passée, étant donné que j'ai fait l'effort des 9 films et plus, j'ai dit on va commencer Vampire Diaries.
Oh boy!
Puis?
À date, ça le touche pas particulièrement, mais là, j'essaie de l'encourager en disant non, mais tu sais, c'est vraiment vieux. Fait que, au début, c'est adolescent, mais à un moment donné, ça devient un peu
t'as-tu
plus.
T'as-tu
dit
aussi pour Star Wars? Tu vas voir au début, c'est vraiment vieux.
mais j'y travaille vraiment, okay. Mais sa façon n'est pas la même que moi pour Star Wars.
Fait que vous avez fait une sortie de couple au cinéma hier?
Ben écoute, quand il a su que le film de Mandalorian sortait, c'était sûr qu'il fallait pas manquer ça. Fait qu'il avait acheté les billets d'avance. Fait
que OK, c'est un vrai de vrai.
Ah, oui, non,
du monde déguisé dans la salle. Audrey, elle a vécu ça, Denis.
Ah oui. Non, moi, je suis arrivée, puis t'avais du monde déguisé en vert, puis du monde déguisé en toutes sortes d'affaires, puis j'étais comme, OK, on est là. Puis j'ai eu un débrief complet sur le retour à la maison. Non.
Un débrief?
Ah oui, un débrief du film.
Pour t'expliquer
un bon
le film.
Exact.
Okay.
Fait que là, c'est The Mandalorian et Grogu.
Oui.
Qui est le vrai nom de bébé Yoda pour
exact,
les profanes.
Exact. Grogu qui est bon, le cute, tu sais, le
ouais,
cute
qui existe pour vendre des totous, là, on l'a tout compris.
Ouais,
là,
voilà, invention de Disney. J'ai écouté la première saison de Mandalorian pour être capable d'embarquer dans le film, me disant qu'il allait sûrement y avoir des liens, tu sais. Mm-hmm. Première déception est peut-être là. C'est que ce film-là est définitivement pour vendre des toutous, dans le sens où c'est un très bon film d'action.
OK.
Mais c'est pas un bon Star Wars. Parce que t'as pas nécessairement des liens. Le seul lien que t'as à un moment donné, là, c'est le fils de Jabba. Parce que là, le Mandalorian se met ami avec le fils de Jabba, puis c'est une de ses missions de devoir le sauver. C'est comme le seul lien que t'as à un moment donné, mais sinon, c'est complètement indépendant comme film.
C'est-tu vrai que ça donne pas mal plus l'impression d'avoir collé 3 épisodes d'une série Disney que d'avoir vu un film?
Honnêtement, ce film-là aurait pu effectivement être une suite de la série, mais on aurait été correct. Là,
c'est
tout le monde
pas
allait
assez
bien,
payant. L'objectif est uniquement pécunier. On estime qu'en fin de semaine, le film va faire quelque part entre 85 et 100 millions de dollars.
OK, le monde est encore accro à
ce
point-là.
Denis, dans les dernières semaines, il est sorti aussi une version animée de Darth Maul. Mm-hmm. Ça a été la série la plus regardée sur Disney Plus
mais ça,
pendant
les
de nombreuses semaines.
Ça, les critiques sont excellentes.
Mais depuis 2 semaines, c'est The Mandalorian qui est redevenu numéro 1 parce que plusieurs personnes ont soit réécouté, soit ont fait comme Audrey puis l'ont regardé pour une première fois. Mais au-delà du côté cinéma. The Mandalorian, c'est au-dessus de 1 milliard d'heures d'écoute sur Disney+.
C'est fou.
C'est des millions de dollars, justement, en tout ce qui est produit dérivé. Puis vous comprendrez que le monde n'achète pas Pedro Pascal avec un casse.
Non, non.
Il achète Grogu.
Puis, hey, pour te dire, Véro, là, le marketing, là, quand t'arrives au cinéma, là, il y a un bucket de popcorn avec un petit Grogu, là, vraiment bien fait, là, une genre de grosse figurine qui entoure le bucket. Là. Ça, puis un breuvage, là. Popcorn, 65 $.
Wow, OK.
Mais il y a des gens qui voulaient donc bien Grogu qui tient le bucket et qui ont acheté ça.
Évidemment,
ben
oui.
Depuis que la série est sortie en 2019, Grogu est devenu le personnage le plus vendu et le plus populaire de l'univers de Star Wars.
Il est quand même cute.
N'en déplaise à tout le monde. Il y a 13 millions de petites gogosses de Grogu qui ont été vendues jusqu'à maintenant.
J'ai aucun doute. Il y avait vraiment des bruits dans la salle quand on le voyait. Là.
Des bruits?
Oh, il est cute! Là, t'entendais le monde réagir. Là. C'était vraiment... Puis il y a son time to shine dans le film à un moment donné. Là. Parce qu'à un moment donné, ils sont séparés. Là. Je donnerai pas de détails parce que là, je vais pas me faire arracher la tête.
Il sa petite force. Ça faisait...
Ouais,
c'est
pas
mal toujours pareil.
Doigts,
et il y a une portion de parc d'attractions. Maintenant, Star Wars à Disney World et Disneyland, qui est d'ailleurs absolument magnifique. T'arrives là-bas et t'es comme, OK, je viens de rentrer sur un plateau de tournage. C'est franchement épatant. Mais il y a une des attractions qui est revampée en l'honneur du Mandalorian parce que Grogu vent.
Ben oui. Pis...
Ouais, c'est plus pour nous autres, Star Wars.
Ben, je me suis posé la question de savoir si vous alliez apprécier le film, parce qu'encore une fois, c'est un super bon film d'action. Ouais. Mais je pense que si, mettons, t'es fan puis tu recherches une connexion, parce que moi, je me suis rendu compte que c'est ça le problème. Moi, j'ai vraiment aimé les 9 films, mais là, j'ai besoin de... Tu sais, mettons, la série Obi-Wan, là. Elle oui. servait à rien, mais elle faisait quand même des connexions. Elle était placée dans le temps à un endroit précis qui ouais. fait que tu es capable de faire des parallèles.
Moi, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées de la série Obi-Wan. Mm-hmm. Le problème avec la série du Mandalorian, c'est que je l'ai essayé 3 fois. Puis je bloque tout le temps à l'épisode où les Jawa, c'est comme des minions. Puis là, ça m'énerve. Puis je suis comme agressé.
C'est le vagabond, western.
Mais sais-tu quoi? Savez-vous quoi, en fait? On en a parlé un petit peu de ça cette semaine. Puis je m'écoutais grogner sur ce qui faisait triper le monde là, avec ouais. le Mandalorian puis Grogu. Là. Puis là, je me disais, Christy, tu sonnes comme ton chum Landry quand tu parles de ces hosties nordiques. Je dis, arrête, man.
Sonnez grumpy.
Fait qu'avoue que c'est plus pour toi. Hein. Puis laisse le monde s'amuser, puis laisse le monde être
heureux. En fait, moi, je pense qu'il y a encore un angle de l'univers de Star Wars qui est pour moi, parce que moi, j'ai capoté sur la série Andor. Mais vraiment... capoté, je l'ai adoré. Non, il n'y a pas de Jedi dedans, mais tout le côté politique, le côté rébellion, ça m'a ouais. redonné le goût d'écouter les films originaux. Puis je pense que c'est ce que Disney a fait. Quand Disney a acheté Lucasfilm à l'époque, ils ont payé des peanuts. Ils ont payé 4 milliards de dollars. Mmh. Actuellement, ça vaut entre 45 et 70 milliards de dollars. C'est pour vous dire à peu près à quel point ça vaut de l'argent.
Ouais.
Ils sont allés pour les ramifications parce que dans vie, si tu veux perdurer, t'as pas le choix. Puis quand ils ont sorti les épisodes 4, 5, 6 à l'époque, oui, ça a vendu de la merch puis tout ça, mais c'est resté quelque chose de quasiment marginal. T'étais dans une gang, mais faut que tu te renouvelles après. Là.
Ouais.
Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu revends ces films-là, tu ressors au cinéma pour essayer d'aller accrocher des Denis puis des Véro à l'époque. On était quoi, dans les années fin 90, début 2000 à peu près?
Oui.
Quand on les a ressortis au cinéma, oui. Il y avait des filets de nuit, Audrey, pour aller voir ça à Place du Royaume.
Fin des années 90.
Ensuite de ça, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le choix de leur donner du nouveau. T'arrives avec les épisodes 1, 2, 3. Et là, en parallèle de tout ça, faudrait que tu ailles chercher des plus jeunes, parce qu'eux autres, ils vont être ta pérennité plus tard.
Oui.
Fait que si on faisait des clones noirs en animation, peut-être que les plus jeunes aimeraient ça. Et c'est carrément comme ça qu'on a construit, puis Disney a juste fait éclater encore plus oui. cet univers-là en allant chercher autant des fans de tout ce qui est plus sérieux et cérébraliste.
Mais ça marche, parce que t'avais plus jeune. Tous ben les ouais. âges, là, d'ado à comme très vieux. Là, je veux dire, on y avait de tout hier soir. Puis c'était quand même le fun, puis bien fait, parce que tu sais, le film, moi, c'était la première fois que je voyais ça, là, mais ils ont comme utilisé les murs de côté.
Ah, c'est hot, hein?
C'est quand même le fun, ce que ah ouais. ça donne.
J'ai vu F1 de même l'année passée, c'est capoté. Là. C'est ton angle mort qui est animé. Là.
Fait que t'es vraiment, t'as l'impression d'être vraiment dans l'action, dans le film. Fait que c'est un super bon film, mais tu sais, je parlais à mon chum en sortant, puis on était comme, tu sais, Il aurait pu faire, je sais pas, là, mourir le Mandalorian, là, tu comprends, puis Grogu, on voit qu'il développe sa force, puis éventuellement, on sait qu'il va devenir un Jedi. On aurait pu voir dans la dernière scène un sabre laser, fait que tu comprends qu'il y a peut-être une suite, puis ben il y a le retour des Jedi. Il aurait pu avoir une twist qui fait qu'il y aurait peut-être un deuxième puis un troisième film.
Une twist qui justifie le fait que tu es au cinéma.
Exact.
Pour voir des épisodes d'une série,
oui,
dans le fond.
Oui, parce qu'il y a des beaux clins d'œil. Mm-hmm. Tu sais, il y a des petits clins d'œil. À un moment donné, Grogu prend dans le bois un petit bâton, puis là, tu... Hey,
comme la petite canne. Ah ouais.
Tu comprends? Il y a des petits flashs, mais ils n'ont pas poussé ça.
Ça me rappelle... Je comprends que les plus jeunes saisissent peut-être pas cet univers-là, mais tu sais, dans le temps, on n'avait pas de service de streaming. Mais on avait des émissions qui pognaient fort à la TV. Ça me rappelle les X-Files. Les X-Files, c'est 9 saisons, puis à un moment donné, ils ont lancé un film. Puis là, on s'est tout dit à taboire, enfin.
Les réponses.
Le film va faire en sorte qu'ils vont tous nous expliquer ce qui se passe dans X-Files depuis le début. On va voir le film. C'est un épisode de 2 heures. Puis à la fin de l'épisode de 2 heures, t'es à la même place qu'avant. Fait qu'on est tous repartis un peu déçus parce qu'on s'attendait. Tu te dis, on change de médium. Il y a une raison pour ça.
Ouais.
C'est parce qu'on a quelque chose à nous dire. Puis ça prend de l'argent, gros. Ça prend du budget. Il va y avoir un big reveal. Yep. Puis là, on s'achète du popcorn, puis on s'installe. Dit yes! Ça fait 5, 6, 7 saisons des X-Files qu'on écoute religieusement. Puis là, on va avoir toutes nos réponses. Puis il se passe rien.
Ben, c'est ça.
OK.
Fait que c'est un bon film, mais c'est effectivement un long épisode de la série. J'ai ri, par exemple, parce que, tu sais, en sortant, on est resté un peu assis puis on en
jasait. Y a-tu des scènes cachées dans le générique?
Non, ben là, c'est ça, tout le monde attendait. Ben oui, hein? Puis tu vois, derrière nous autres, là, la rangée au complet, c'était du monde déguisé. Là. Puis là, là hey, c'était le caucus de fin de match. Là. Bon. Là, je veux dire, là, on entendait les critiques. Puis qu'est-ce que tu penses? Hey, non, mais t'as-tu remarqué ce détail-là? Puis j'étais comme, OK, il y a des gens qui sont encore vraiment absorbés. Puis je trouvais ça mignon.
Tant mieux! Tant mieux, ça en prend. Donc, le film a pris l'affiche hier. Y a-tu d'autres nouveautés cinéma?
Oui, il y a d'autres nouveautés cinéma. Puis on y va encore une fois dans le film d'horreur et le film un peu tordu, la contre-programmation, parce qu'on est très au courant que c'est le film de Mandalorian qui va tout ramasser au box-office. Fait que dans ce temps-là, on place des petites pépites à travers. Le Passager, un suspense d'horreur qui prend l'affiche. C'est un couple qui fait son trip de van life puis est témoin d'un terrible accident qui coûte la vie au conducteur puis ils se mettent à être traqués par vraisemblablement un harceleur un peu cinglé qui les suit à la trace. Juste la bande-annonce, ça donne pas le goût de rouler tard le soir. L'autre, Backrooms, les arrières-salles, semble-t-il que c'est originaire d'une création qui s'est retrouvée sur Internet puis qu'il y avait eu un gros buzz là-dessus. C'est une psychothérapeute qui a un client qui lui dit à tel endroit, c'est une ancienne boutique de meubles là, qui est fermée, quand tu passes à travers un mur, t'as tout le temps de nouvelles pièces qui se construisent. La bande-annonce est tellement tordue. Ça fait un peu penser à une espèce de Severance, si on veut, pour ceux
ouais,
qui ont regardé
la
série de Apple. Ça a l'air absolument, absolument fou. Fait que ceux qui aiment ça, là, comment on appelle ça? Il y a un terme pour ce genre de film-là. Ceux qui te jouent avec la tête, là, ça rentre dans cette catégorie-là. Puis il y a la comédie fantaisiste qui s'appelle I Love Boosters. Il y a quand même Will Poulter puis Demi Moore dedans. C'est des boosters, des voleurs à l'étalage professionnel qui décident de s'en prendre à une espèce de papesse de la mode.
Thank you. Il est 15h37. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. On vous souhaite un bon début de week-end. On vous rappelle qu'on ne vous lâche pas de la fin de semaine. Le rock reprend ses droits à Boulevard à partir de 18h ce soir avec le chum Dan Caron, alias la légende du Aerosmith ce soir. Les Eagles vont être là également. Motley Crue, Oasis, The Offspring, ZZ Top, Metallica et ainsi de suite. Du gros fun pour vous autres, pour les amateurs. Ghost va être là, Def Leppard aussi, tabarnouche. Gros line-up et on vous rappelle que toute la fin de semaine, le meilleur musique de la business et des indices également pour peut-être vous retrouver au Centre Bell mercredi prochain. Gravel. Je sais que le vendredi, on file toujours un peu plus léger. D'ailleurs, on va faire le tour des nouveautés musicales tantôt. Quelques trucs le fun à partager, toutes catégories confondues. On va faire les suggestions chaloux également dans la prochaine heure. Mais on va se faire une petite portion de brocoli ensemble. Là. J'ai le goût de vous jaser de trucs d'actualité qui, je trouve, méritent quand même notre attention, même si on est vendredi. Comment ça va dans la circulation, Audrey?
Mal.
Ouais. Ça qui arrive.
Ben, tu l'as dit, c'est vendredi. Fait que Capitale, direction Est, c'est déjà très au ralenti. Hauteur Robert Bourassa. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Wilfrid Amel et la Capitale, ça roche. Il y a des problèmes également sur la Capitale, direction Ouest, entre Bourg-Royal et Laurentienne. Henri IV Sud, ça se passe de Charest au Pont. Si vous êtes sur Duplessis, toujours direction Sud, c'est à la hauteur de chemin Sainte-Foy qu'on sent le ralentissement jusqu'à l'entrée des ponts. D'ailleurs, sur le pont, c'est assez au ralenti en ce moment. 20 direction ouest, ça se passe entre chemin des Îles et Taniata, est, hauteur Taniata. Et il y a ces ralentissements-là sur Guillaume Couture, ici et là, dû aux travaux, là, entre autres, entre la route du président Kennedy et chemin des Îles. Évidemment, s'il y a autre chose, 88-971-1021 texto. Et vous rappelez que le pont de Québec ferme 4 nuits la semaine prochaine. Peut-être prévoir vos déplacements. Donc, inaccessible aux automobilistes entre 21h et 5h30 toutes les nuits entre dimanche et jeudi prochain.
On vit dans un drôle de monde et je veux saluer une ancienne collègue que j'aime beaucoup, Élisa Cloutier, qui travaille maintenant pour le Journal de Québec.
Au bureau d'enquête, ben oui.
Pouvez-vous croire que l'église de Paul Mukendi reçoit encore des subventions du provincial et du fédéral?
Ça m'a fait capoter quand j'ai vu ça un matin.
Le nom de Paul Mukendi est encore sa bâtisse.
Ouais.
Paul Mukendi est encore le chef de la secte.
Lui, il doit être mort de rire.
Tu dis, toi, sa femme et ses enfants partent d'ici régulièrement pour aller le rejoindre.
Mais nous, on n'est pas capable de l'extrader.
On n'est pas capable.
En fait, il a réussi à quitter le pays, puis j'ai tellement hâte qu'on sache comment il a fait. Là.
C'est la plus grande honte de la police de Québec d'avoir été déjouée par un pareil navet. Ça, là... Je te le disais tantôt, on a tout un bucreton à quelque part. Là. Il y a toute une affaire qu'on laisse aller à un moment donné, qu'on n'est pas fier. La police de Québec, si tu veux scraper un party de Noël, parle-le de Paul Mukendi. Ottawa accorde des privilèges fiscaux à l'église du Centre évangélique Parole de vie. Et c'est plus de 50 000 $ en subventions gouvernementales que l'église de Paul Mukendi a reçues dans les cinq dernières années. Dans les cinq dernières années, là, il est accusé et reconnu coupable d'agression sexuelle, puis il s'en va sauver comme un poltron à l'autre bout de la planète. Puis pendant ce temps-là, et le fédéral et le provincial continuent de donner des subventions, alors que Mukendi, agresseur sexuel reconnu, continue de faire des séances Google Meet pour ses fidèles de Québec à toutes les fins de semaine.
Il y a quelqu'un qui soumet l'hypothèse. Ça se peut-tu qu'il aurait peut-être pris, mettons, le passeport de son frère pour s'enfuir?
C'est très possible. C'est quelque chose qui a circulé à un moment donné. Rappelons, pour les gens qui n'ont pas suivi dans les dernières années, que Paul Mukendi a été condamné à 10 ans de prison pour agression sexuelle. Il n'est pas inscrit à la liste des administrateurs de l'Église, mais tout le monde dit que c'est lui qui continue de tirer les ficelles. Puis je vous rappelle que son nom est encore sur le dessus de la fucking bâtisse.
Il donne pas encore des conférences à distance, d'ailleurs?
Il donne encore des conférences, des Google Meet à toutes les fins de semaine. C'est encore lui qui fait les messes. Surnommé le père de la maison par ses fidèles, Mukendi anime régulièrement des célébrations projetées sur écran géant en direct de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, où il est libre comme l'air.
Il n'y a pas l'Ebola là-bas.
Parce qu'il a réussi à sacrer son camp. Ben, l'Ebola ne l'a pas encore pogné. Le gouvernement du Québec aurait versé plus de 16 900 $ à l'Église en 2024. En 2024, ça fait 3 ans que Paul Mukendi fuit la justice et sa peine de 10 ans pour agression sexuelle. Le ministère des Finances nie avoir versé cet argent. Mais le Journal de Québec a des documents qui prouvent le contraire. C'est tout un scandale. Je trouve que c'est pas assez jasé, ça, aujourd'hui. Le fédéral a contribué à plus de 35 600 $ en 2021. En 2021, c'est l'année où il a sacré son camp au Congo. Il est reconnu coupable d'agression sexuelle. Il a une peine de 10 ans dès qu'il remet les pieds. Il remettra jamais les pieds ici, là. Mais il continue de faire la grimace à toutes les semaines, puis d'animer ses fidèles d'une église qui devrait être complètement bulldozée dans une société qui se tient un petit peu de bout. Tu sais, à un moment donné, là, quand tu n'es pas capable de comprendre que le gourou de ta secte, c'est un agresseur sexuel, puis que le nom est encore sur le devant de l'église, ben c'est peut-être à la société là, de s'en charger, le rendu là. Mais
moi, déjà, tu sais, de donner des subventions à des organismes considérés comme des organismes religieux...
J'ai de la misère. Beaucoup, beaucoup de misère. La religion, le dos large.
On nous vante la société laïque, puis ouais. Je suis comme...
Hey, regarde, comment ça se fait que le Québec donne encore des subventions à quoi que ce soit de religieux alors qu'on met de l'avant la société laïque? Question est excellente. Là.
Tu vois, si par exemple, un groupe religieux avait un organisme de bienfaisance avec un impact direct, je pense entre autres, mettons, au secteur de, je sais pas moi, Saint-Roch ou quelque chose du genre, dans ma tête, c'est différent. Mais tu sais, de donner des congés de taxes ou des subventions ou quoi que ce soit,
pourquoi?
Je suis comme, mais pourquoi?
Ouais.
On est si riche que ça.
Et dans ce cas-là précis, ah oui, on nage dans le luxe au Québec et au Canada. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Parlant de nager dans le luxe, on a beaucoup parlé de ça cette semaine.
Le luxe, non.
Non, pas le luxe. Mais tu sais, cette fameuse rencontre au sommet, là, où des anciens ministres des Finances ont regardé le dossier puis des municipalités.
Sur les infrastructures, puis le manque d'argent, le besoin d'aide du provincial.
Et on est arrivé à la même conclusion de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel politique. On est arrivé avec un grand constat. La meilleure façon de sauver les municipalités, c'est de taxer plus le pauvre monde, le pauvre crétin contribuable. Connaissez-vous Alain Reyes?
Oui, ancien politicien.
Alain Reyes, c'est l'ex-maire de Victoriaville, puis c'est un ex-politicien fédéral. Il a écrit une lettre ouverte cette semaine, ça a passé dans le bol. Mais ce qu'il écrit est tellement intelligent. Puis lui, il a vu les deux côtés de la patente. Fait qu'il peut expliquer comment ça marche. Puis il l'explique très bien. Vous voulez savoir c'est quoi le problème avec les municipalités puis les gouvernements? Vous souvenez-vous de François Legault qui a traité les maires de quêteux?
Absolument.
Ouais. Savez-vous pourquoi les maires sont quêteux? Il l'explique. Il l'explique drôlement bien à part de ça. Il dit, je l'ai vécu moi-même avec mon administration municipale à Victoriaville. Combien d'heures avons-nous consacré à remplir des formulaires, préparer des demandes, répondre à des critères administratifs ou attendre des décisions gouvernementales? Trop souvent, mon équipe passait plus de temps à courir après les programmes qu'à travailler directement sur les priorités de notre ville et les besoins des citoyens. Le rapport présenté à l'Union des municipalités du Québec révèle qu'il existe plus de 200 programmes gouvernementaux différents pour accéder à l'aide financière. Résultat, l'équivalent de 4100 employés municipaux à temps plein est consacré uniquement à gérer cette mécanique administrative.
Voir les opportunités, dans le fond, pour les villes de profiter de programmes pour avoir un peu d'argent pour être capable d'avancer.
Mais c'est intense.
Soyons lucides. Si ça prend 4100 employés municipaux pour remplir les demandes, il y a probablement, minimalement, 4100 fonctionnaires de l'autre côté pour les analyser et les autoriser. On dépasse facilement les 650 millions de dollars en coûts administratifs avant même d'avoir réparé une seule conduite d'eau ou asphalté une seule rue. Parce que les fonctionnaires et les employés municipaux jouent au ping-pong dans des programmes qui sont créés comme une espèce de labyrinthe administratif. Vous savez c'est quoi demander quelque chose à vos assurances?
Oui.
C'est toujours un petit peu trop compliqué, hein? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui se découragent. Bien, les programmes gouvernementaux pour les municipalités, c'est fait exactement de la même façon, pour en donner le moins possible. Mais la municipalité, elle, a besoin d'argent pour faire ses affaires, mais elle n'a pas l'autonomie. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est des milliers et des milliers d'employés municipaux qui, temps plein, font juste se débattre avec de la christie de paperasse.
Il y a quelque chose de terriblement paradoxal, parce que peu importe les gouvernements, entre le provincial puis le fédéral, tu vas toujours entendre le provincial crier « Le fédéral essaie de se mêler de compétences provinciales, ça n'a pas de bon sens! » Mais c'est carrément ce que le gouvernement provincial fait avec les villes. Il leur coupe les ailes, il les empêche d'avancer parce que, justement, ils veulent tellement avoir le nez fourré partout qui complique les choses, puis ça augmente les coûts, puis ça augmente aussi le temps que ça va prendre pour être capable de se rendre au bout de l'exercice.
En tout cas, Alain Reyes, qui a été des deux côtés de la clôture, lui, il dit « On a créé une immense bureaucratie de transfert d'argent public entre gouvernements. » Il dit « Le problème est plus profond encore. Le rôle des municipalités a complètement changé. Elles ne sont plus simplement responsables du déneigement et des collectes d'eau. Elles gèrent désormais des enjeux liés à l'itinérance, au logement, au changement climatique, à la mobilité, à la sécurité publique et au développement économique. » C'est là que le bât blesse. Le rapport de l'UMQ rappelle que les municipalités sont devenues de véritables gouvernements de proximité. Pourtant, malgré cette reconnaissance dans les discours politiques, Québec continue de leur transférer des responsabilités sans les pouvoirs, les revenus et la prévisibilité nécessaires. On leur demande d'agir comme des gouvernements tout en les maintenant dans une relation de dépendance. Ouais. Fait que si les maires sont des quêteux, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Le problème, c'est que la capacité de payer des citoyens atteint déjà ses limites. Peu importe l'ordre de gouvernement municipal, provincial ou fédéral, ce sont toujours les mêmes contribuables de la classe moyenne qui paient la facture. Ceux-là qui travaillent, qui payent déjà des taxes municipales, des impôts provinciaux et au fédéral, des tarifs, des permis et des taxes à la consommation. Quand est-ce qu'on simplifie la patente?
Oui, mais Denis,
j'ai trouvé sa réflexion tellement bonne.
Si on simplifie la patente, là... Quand est-ce que le gouvernement va pouvoir se présenter dans des projets de la ville pour venir couper des rubans puis faire des annonces? Ils vont en perdre le trois quarts.
Plus
quand
ça va.
Ils vont l'air généreux.
Écoute, plus ça va, plus le projet de Régis Labeaume de la cité-État, là, je pense que c'est de même qu'il faut finir. Puis après ça, ben nous autres, on s'occupera des politiciens qui sont tout le temps dans notre cour ou à peu près, puis on choisira qui qu'on veut puis qui qu'on veut plus. Mais l'histoire, moi, me couper de ces gouvernements-là, qui te tiennent par la main pour inaugurer des affaires, mais qui font en sorte que tu as des milliers d'employés d'un bord puis des milliers de fonctionnaires de l'autre bord qui s'envoient des lettres comme s'ils étaient des correspondants, des pen-pals, là. Tu sais? Hey, comment vas-tu? Je t'ai envoyé une demande pour le programme 243.
Après 2026.
Hein? Après révision du formulaire, il y aurait peut-être quelques inexactitudes. Pouvez-vous les remplir à nouveau?
Pouvez-vous croire qu'on a réuni ce qu'on qualifie de deux éminences du monde des finances et que leur seule conclusion... Ils ont tellement été corrompus par leur service au gouvernement que la seule conclusion qu'ils avaient trouvée, eux autres, c'était de taxer plus le monde... Reyes, c'est un politicien qui a été maire, c'est un politicien qui a été député fédéral. Lui, il a compris à patente. Il a compris où on peut couper. C'est de l'ouvrage. Il y a des fonctionnaires qui vont bougonner. Il y a des syndicats qui vont bougonner. Mais c'est tellement plus facile de demander aux payeurs de remettre la main dans ses poches. Bref, c'est fini l'actualité pour aujourd'hui. On va se faire des nouvelles pis tout, mais je trouvais ça important de le mentionner. Je trouvais que la réflexion était intelligente, puis c'est pas juste du chiolage. Tu sais, il arrive non, avec...
C'est réfléchi.
C'est très bien décrit, la situation dans laquelle on perd énormément de temps, d'énergie et d'argent, alors que tout ce qu'on veut, c'est améliorer nos villes, puis peut-être rapprocher le pouvoir un petit peu plus du citoyen. Parce que du pouvoir, le citoyen, il y en a de moins en moins. On s'arrête, pas longtemps. Vous êtes à Boulevard. Commence à faire soif, hein? Ça commence à sentir les indices aussi. Là. Beaucoup de choses dans les prochaines minutes pour vous autres. Gravel.